Chapitre 38. Il y a des choses auxquelles il vaut mieux ne pas penser. Alors je ne l'ai pas fait. J'ai roulé. Le pike jusqu'à la 128, la 128 vers le sud jusqu'à Dedham. Encore 12 kilomètres. Quelques virages, et je me suis retrouvé dans un quartier résidentiel très boisé. Des maisons anciennes, de vastes terrains, le genre d'endroit où les gens ont des trampolines à l'avant des maisons et des étendoirs à linge à l'arrière. Bon endroit pour séquestrer une enfant, me suis-je dit. Et j'ai de nouveau arrêté de penser. Au premier passage, j'ai raté la maison. Je n'avais pas vu les numéros sous la neige qui tombait. Quand je me suis rendu compte que j'étais allé trop loin, j'ai pilé et la vieille voiture est partie en tête à queue. J'ai tourné le volant dans le sens de la vrille, un réflexe qu'on m'avait enseigné, et ça m'a calmé les nerfs, rendu mon sang-froid. La formation. On en revenait à ça. Les truands ne sont pas formés. Moi, je l'étais. J'ai garé ma voiture au bord de la route, bien en vue, mais j'avais besoin qu'elle soit accessible pour pouvoir m'enfuir rapidement. J'avais le Glock 40 de Brian dans le dos, coincé dans la ceinture de mon pantalon. La gaine du couteau cabar avait des lanières pour fixation au mollet. Je l'ai sanglé sur ma jambe. Ensuite, j'ai chargé le fusil. Quand on est une jeune femme plutôt fluette, le fusil est toujours un bon choix. Ça permet de dégommer un buffle sans même avoir besoin de viser. J'ai vérifié mes gants noirs, descendu ma casquette noire sur mes yeux. Je sentais le froid, mais comme quelque chose d'abstrait et de lointain. J'entendais surtout un bruissement dans mes oreilles. Mon sang, imaginais-je, pulsait dans mes veines par un flot d'adrénaline. Pas de lampe de poche. J'ai laissé mes yeux s'accoutumer à cette obscurité qu'on ne trouve que sur les routes de campagne, et je me suis enfoncé en courant dans les bois. C'était agréable de bouger. Après 24 heures d'alitement à l'hôpital, puis 24 heures d'emprisonnement, c'était bon de sortir enfin, d'agir, de faire ce qu'il y avait à faire. Quelque part là-bas, il y avait ma fille. J'allais la sauver, j'allais tuer celui qui l'avait enlevée, et on rentrerait toutes les deux chez nous. À moins, bien sûr. J'ai de nouveau arrêté de penser. Les bois se sont éclaircis, j'ai débouché dans un jardin enneigé et je me suis arrêté net pour observer la grande maison de plein pied qui s'étendait devant moi. Pas de lumière aux fenêtres, pas la moindre lueur en guise de bienvenue. Il était nettement plus de minuit maintenant, une heure où les honnêtes gens dorment. Cela dit, ma cible ne gagnait pas honnêtement sa vie, n'est-ce pas? Spots extérieurs à détecteurs de mouvement, me suis-je dit tout de suite après. Des projecteurs qui s'illumineraient à la seconde où j'approcherais. Sans doute des portes et des fenêtres équipées d'alarmes. Au moins un minimum de mesures de sécurité. Comme le dit l'adage, les menteurs voient des menteurs partout. Les assassins voient des assassins partout et prennent leurs dispositions en conséquence. Pénétrer dans la maison sans me faire repérer n'était sans doute pas envisageable. Très bien. J'allais donc la tirer dehors. J'ai commencé par la voiture noire que j'ai trouvée garée dans l'allée. Une Cadillac Esplanade, toute option. Mais comment donc? J'ai éprouvé un vif plaisir à fracasser la vitre conducteur avec la crosse du fusil. Une alarme suraiguë s'est mise à hurler. J'ai couru vers le côté de la maison. Plein feu des projecteurs, sous lesquels l'avant et le côté du jardin apparaissaient avec un relief blanc aveuglant. Le dos collé au mur, face à la Cadillac, je me suis rapproché autant que possible de l'arrière de la maison, d'où je supposais que Purcell finirait par sortir. Je retenais mon souffle. Un encaisseur comme Purcell ne serait sans doute pas suffisamment con pour se précipiter sous la neige en caleçon. Mais il serait trop arrogant pour laisser quelqu'un lui tirer sa caisse impunément. Il allait venir, armé, et penserait-il sans doute prêt. Il a fallu pas moins d'une minute, puis j'ai entendu le petit grincement de la porte de derrière qui s'ouvrait discrètement. Je tenais négligemment le fusil au creux de mon bras gauche, et de ma main droite, je dégainais lentement le couteau. Je n'avais jamais égorgé personne. Je n'avais jamais affronté personne d'aussi près. J'ai de nouveau arrêté de penser. Mes oreilles s'étaient déjà habituées au hurlement de la sirène, il m'était donc plus facile de détecter d'autres bruits. Le léger crissement de la neige sous le premier pas de l'individu. Le deuxième. J'ai jeté un coup d'œil en arrière au cas où ils auraient été deux dans la maison, un qui sortirait furtivement par l'avant et l'autre par l'arrière pour me prendre en tenaille. N'entendant les pas que d'une personne, je me suis focalisée dessus. Je me suis obligée à respirer par le nez, à inspirer l'air au plus profond de mes poumons, à ralentir mon pouls. Arriverait ce qui devrait arriver. C'était le moment de lâcher prise. Tapis. Le couteau prêt à frapper. Une jambe est apparue. J'ai vu des bottes de neige noires, un jean épais, le pan d'une chemise rouge à carreaux. J'ai vu un fusil baissé contre la cuisse de l'homme. John Stephen Purcell. Ai-je soufflé. Un visage stupéfait s'est retourné vers moi, les yeux sombres, écarquillés, bouche bée. J'ai levé les yeux vers l'homme qui avait tué mon mari et kidnappé mon enfant. Et j'ai donné un grand coup de couteau, au moment même où il ouvrait le feu. Ne jamais venir à une fusillade avec un couteau. Le dicton ne se vérifie pas toujours. Purcell m'a touché à l'épaule droite, mais moi, je lui ai sectionné le jarret de la jambe gauche. Il s'est effondré en tirant une deuxième fois dans la neige. J'ai envoyé balader son fusil d'un coup de pied, mis le mien en joue, et à part qu'il se débattait comme un fou contre la douleur, il n'a plus rien tenté contre moi. De près, Purcell semblait avoir entre 45 et 50 ans. Un encaisseur qui avait de la bouteille, donc. Le genre qui n'avait pas laissé son poing américain prendre la poussière. Son statut lui inspirait manifestement un certain orgueil, parce que même lorsque son jean s'est assombri sous un flot de sang, il a continué à serrer les dents sans maudire. « Tu te souviens de moi ?» Après un temps, il a hoché la tête. « Déjà dépensé l'argent ?» Il a fait signe que non. « Dommage, parce que c'était ta dernière occasion de faire du shopping. Je veux ma fille. » Il n'a rien dit. Alors j'ai posé le bout du fusil sur son genou droit, celui de sa jambe encore valide. « Dis adieu à ta jambe. » Ses yeux se sont agrandis, ses narines se sont dilatées comme beaucoup de gros durs. Purcell était plus doué pour distribuer que pour recevoir. « Je ne l'ai pas » a-t-il lâché d'une voix grinçante. « Pas ici. » « C'est ce qu'on va voir. » Je lui ai ordonné de se retourner sur le ventre, les mains dans le dos. J'avais une pleine poche de liens de serrage pris dans les réserves de Shane. J'ai commencé par lui attacher les poignets, puis les chevilles, malgré ses gémissements de douleur quand j'ai déplacé sa jambe gauche blessée. « Je devrais éprouver quelque chose », me suis-je vaguement dit. Un sentiment de triomphe, des remords, n'importe quoi. Je ne ressentais rien du tout. Mieux valait ne pas y penser. Purcell était blessé et ligoté. Pour autant, ne jamais sous-estimer l'ennemi. J'ai fouillé ses poches et découvert un canif, un beeper et une dizaine de cartouches en vrac qu'il y avait glissées pour pouvoir recharger en cas d'urgence. J'ai tout pris et mis ça dans mes propres poches. Ensuite, sans faire attention à ses grimaces, je l'ai tiré dans la neige avec mon bras gauche jusqu'à la véranda à l'arrière de la maison et je lui ai attaché les bras à un robinet extérieur avec un lien de serrage. Avec suffisamment de temps et d'énergie, il aurait peut-être réussi à se libérer, voire à arracher le robinet métallique, mais je ne prévoyais pas de le laisser aussi longtemps. Et puis, pieds et poings liés, avec un jarret sectionné, il n'irait pas si loin, pas si vite. Mon épaule me brûlait. Je sentais du sang dégouliner le long de mon bras, sous ma chemise. Une sensation désagréable, comme quand on a de l'eau dans la manche. J'avais la vague impression que je n'accordais pas suffisamment d'importance à ma blessure. Que je souffrais sans doute beaucoup. Qu'il était sans doute bien plus grave de perdre autant de sang que d'avoir un peu d'eau dans la manche. Je me sentais étrangement vide, inaccessible aux émotions et à la gêne provoquée par la douleur physique. Mieux valait ne pas y penser. Je suis entrée à pas prudents dans la maison, le couteau rengainé, le fusil devant moi. J'étais obligée de caler le canon sur mon avant-bras gauche. Avec ma blessure, je risquais d'avoir du mal à viser. Mais bon, ça restait un fusil. Purcell n'avait allumé aucune lumière. Logique, en fait. Quand vous vous apprêtez à faire une sortie dans le noir, allumer les lampes flinguerait votre vision nocturne. Je suis entrée dans une cuisine obscure qui sentait l'ail, le basilic et l'huile d'olive. Manifestement, Purcell aimait cuisiner. De là, je suis passée dans le séjour, où se trouvaient deux énormes fauteuils relax et une gigantesque télé. Puis dans un petit bureau avec une table et plein d'étagères, une petite salle de bain et un long couloir qui conduisait à trois portes entrouvertes. Je me suis forcée à respirer, puis je me suis dirigée aussi furtivement que possible vers la première. J'étais en train de la pousser en douceur quand mon pantalon s'est mis à carillonner. Je me suis ruée dans la pièce que j'ai balayée du fusil, prête à faire feu sur toute silhouette qui se jetterait sur moi, et je me suis collée dos au mur en me préparant à contre-attaquer. Aucune ombre ne m'a assaillie. Éperdue, j'ai plongé la main droite dans ma poche pour en sortir le beeper de Purcell, que je me suis efforcée d'éteindre d'une main malhabile. Au dernier moment, j'ai jeté un œil à l'écran. Le message « Lions DCD ADR Léonie ». Shane Lyons était mort, avis de recherche pour Tessa Léonie. Trop tard, ai-je murmuré. J'ai remis le beeper dans ma poche et terminé mon inspection de la maison. Rien, 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 rien. Selon toute apparence, Purcell vivait en célibataire avec une télé grand écran, une chambre d'amis et un bureau. C'est alors que j'ai vu la porte qui menait à la cave. Mon pouls est de nouveau accéléré. J'ai senti le monde chavirer, prise de vertige, quand j'ai fait le premier pas vers cette porte fermée. Perte de sang. Affaiblie. Devrais m'arrêter, panser la plaie. Ma main sur la poignée. La tournée. Sophie. Tous ces jours. Tous ces kilomètres. J'ai ouvert la porte. Et scruté l'obscurité.